France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dernier passage dans le Val d'Oise avec encore une bonne démarche auprès des plus jeunes pour aborder une nourriture saine en mettant les mains à la pâte. Elle a pris le nom des Petit Tablier, notre confrère Laurent Gibowski consacre, comme chaque vendredi, un article à cette initiative dans les pages numériques de La Vie. Encore un mois avant la clôture d'inscription concours des prix innovés à la campagne pour les jeunes entreprises installées dans les territoires ruraux qui participent au développement durable. Un rappel des événements qui prépare la remise des prix prévue 2020, tout à l'heure, avec Éric de Kermel.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Gabriel Leneau, bonjour.
Bonjour.
Fondateur des Petits Tabliers, des ateliers de cuisine éco-citoyenne. Vous avez longtemps travaillé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'en est le prolongement, en fait, hein, ça.
Absolument. Ça fait vraiment suite à mes différentes expériences dans les quartiers populaires et dans des programmes d'emploi ou d'éducation qui m'ont donné la base de l'idée et de l'envie d'aller bosser avec les plus jeunes et de monter un programme qui soit vraiment éducatif et intéressant pour renforcer la réussite scolaire dans les écoles des quartiers populaires et en même temps pour en profiter pour travailler sur des notions environnementales, nutritionnelles ou d'égalité hommes-femmes.
Alors, dans le processus des Petits Tabliers, je résume, il y a de la diversité avec de l'insertion professionnelle. Il y a de la sensibilisation à l'environnement et à la qualité des produits consommables. Il y a donc un partage des savoir-faire. Il y a aussi une remise en place d'une égalité homme-femme par rapport à la cuisine. Il y a beaucoup de raisons qui justifient ces ateliers que vous proposez en milieu scolaire.
Il y a effectivement beaucoup de raisons. On s'est vite rendu compte que la cuisine était un très bon vecteur pour faire passer beaucoup de messages. D'abord, c'est quelque chose que les enfants adorent. C'est quelque chose dans lequel ils s'amusent et ils sont extrêmement attentifs, beaucoup plus attentifs qu'ils ne peuvent l'être le reste du temps. Et donc, c'est un outil qui est très utile pour aller bosser les apprentissages de base, pour aller bosser la saison, le local, tous ces enjeux environnementaux qui se retrouvent dans notre assiette, tous les enjeux nutritionnels qui se retrouvent dans notre assiette. Comme on le fait de manière très ludique, on arrive à faire bosser les petits garçons et les petites filles sur ces sujets-là, et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue égalité. Donc on est vraiment sur un projet qui part de la cuisine pour faire plein de choses.
Les chiffres sont alarmants, hein, Gabriel. 1,7 million d'enfants en France en surpoids. 70% des familles voient majoritairement les repas préparés par les femmes. Et puis l'alimentation représente 16% des émissions de gaz à effet de serre des ménages.
Tout à fait. Le chiffre du surpoids et de l'obésité, c'est 20% des enfants en France. Quand on va dans les quartiers populaires, ça monte à 40%. Donc c'est un enjeu qui est très important. Aujourd'hui, je me trouve à Argenteuil. Argenteuil, c'est une des villes où le taux d'obésité global de la population est le pire en France métropolitaine avec Saint-Denis. Ils sont quasiment à 56%. Donc c'est un vrai enjeu de santé, de bien s'alimenter et de sortir des habitudes du tout près, du fast-food, de la junk food de manière générale, et d'apprendre à faire des alternatives à ça. Je vous donne un tout petit exemple là-dessus. On était avec une classe la semaine dernière qui ne jurait que par une grande marque de distribution qui fait des beignets de poulet. Et ben on est allé construire avec eux une recette de beignets pas frites, donc bien plus saine, une partie végétarienne, une partie avec viande. On est parti de ce qu'ils mangent d'habitude pour leur apprendre à faire la version saine et respectueuse de l'environnement de cette recette. Et c'est comme ça un petit peu qu'on arrive à changer le mode de consommation.
Ouais, alors effectivement, les proportions que vous venez de donner sont accablantes. Il y a un phénomène culturel, mais il y a aussi un phénomène financier, c'est le pouvoir d'achat.
Alors, il y a un vrai problème sur le phénomène financier. Aujourd'hui, on achète à très bas prix des plats tout prêts, produits par des géants de l'agroalimentaire. Alors, par exemple, je vais vous parler d'une toute petite initiative avec qui on bosse. On travaille avec un groupement d'agriculteurs du 95 qui nous fournit à prix quasiment coûtant les denrées nécessaires pour nos ateliers. Là où certains géants de l'agroalimentaire voient le bio, par exemple, comme une opportunité business qui leur permet de faire des marges très avancées, on est sur des agriculteurs locaux qu'on rémunère correctement, mais du coup, comme c'est de la vente et de l'achat en direct, le prix baisse très significativement. Donc on les recommande beaucoup aux familles qui s'y retrouvent très largement.
Ouais. Est-ce que les parents participent aussi aux ateliers parce que ce sont les premiers concernés?
Alors, ce sont les premiers concernés. Ils participent très régulièrement aux ateliers, quasiment à tous. Quand ils ne peuvent pas toujours participer, on organise systématiquement un ou deux événements dans l'année pour les embarquer dans le projet, soit généralement un dîner autour des cuisines des parents et des cuisines des petits tabliers, des cuisines des professeurs, pour que on crée un moment d'échange autour de la nourriture et où on arrive à parler de plein de choses et à recréer du lien avec des gens qui ont une certaine méfiance de l'institution scolaire. Et on arrive à créer des moments très agréables.
Et les cuisiniers que vous employez viennent de tous les continents?
Alors, ils viennent de tous les continents. Ils viennent très majoritairement de chantiers d'insertion, d'associations d'aide aux migrants, des ZAT. Donc, c'est des gens qui ont été dans la difficulté à un moment et qui, aujourd'hui, se retrouvent à avoir créé une entreprise pour en vivre. Et nous, on est une partie de leur chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on a une diversité culturelle qui est très riche, et ce qui est un atout aussi du projet de manière très claire.
Alors, tout est récent, hein, et les ateliers des petits tabliers interviennent surtout en Île-de-France. Vous prévoyez une extension ?
Absolument, on prévoit des extensions dans les années scolaires à venir. On vise prioritairement la région de Lilloise, probablement à la prochaine rentrée.
Tant mieux. Lespetitstabliers.com, suivez bien les opérations qui sont proposées, parce qu'on trouve que c'est vraiment très très bien. Il y a une page Facebook aussi. Merci Gabriel.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
L'Estudiantina d'Argenteuil mériterait une longue place dans nos carnets tellement son histoire est riche et digne des croisements culturels qu'elle a engendrés. Pour cause, cet orchestre qui a formé des dizaines d'amateurs à la musique traditionnelle jouée sur des instruments à cordes pincées, les instruments à plectre, vient de l'Italie du 19e siècle. En 1920, Mario Monti et sa famille quittent leur Italie natale pour s'installer à Argenteuil, là où la main-d'œuvre est recherchée. Chez les Monti, comme dans bien d'autres familles immigrées, la case emploi est dans le bâtiment. Mario, le fils, suit le père tout en pratiquant la guitare et la mandoline. Un orchestre va voir le jour, dirigé par Mario. Viendront ensuite les cours du dimanche matin, dispensés aux enfants des quartiers. Des élèves qui entreront au fur et à mesure dans l'orchestre. Mario Monti est nommé professeur titulaire de la classe de guitare à l'école de musique d'Argenteuil. L'ancien ouvrier ajusteur est immergé à temps plein dans la musique. Études de composition, d'harmonie, de contrepoint, transcription d'œuvres classiques pour orchestre à plectre, rien n'arrête notre héros. La retraite arrivant, c'est Florentino Calvo, un de ses anciens élèves, qui lui succède à la direction d'un orchestre qui comprend aujourd'hui 50 musiciens. Et il est aussi à la tête d'une école qui a formé un bon nombre de musiciens professionnels maintenant réputés. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'elle se déroule dans le Val d'Oise, parce qu'on peut être un bon manuel du bâtiment et posséder l'âme d'un musicien, parce que quand on vient d'un autre pays, non seulement on ne se coupe pas de sa culture, mais en plus, on peut la faire partager dans son pays d'adoption. Ça fait plus de 70 ans que ça dure, cette histoire. Estudiantina d'Argenteuil.fr pour l'adresse. Éric de Carmel, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Dans quelques semaines, ce sera la clôture du dépôt de candidature à la saison 2 du prix Innover à la campagne. Nous l'avions suivi l'année dernière avec plus de 300 candidats, des entreprises en activité, mais de moins de 10 ans, quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires, peu importe. Mais surtout, elles correspondent à un idéal, c'est j'entreprends là où j'ai envie de vivre, et en particulier à la campagne. Et alors, avant de parler du prix et de redonner quelques informations pratiques, aujourd'hui, il y a un vent favorable en direction des campagnes, avec donc le programme du gouvernement, nos campagnes territoires d'avenir. Il y a eu des rencontres, des personnes auditionnées, 3 mois de consultation, 200 propositions. C'est un vent nouveau qui va dans votre sens ?
Ah, complètement. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, on redécouvre que la ruralité est un territoire d'innovation. On redécouvre aussi que il y a des gens qui font le choix de vivre en milieu rural, et du coup, on a aujourd'hui entre guillemets un exode qui est un exode qui s'inverse, puisque notamment Paris est quitté chaque année de plus en plus au profit du milieu rural. Mais il y a aussi des gens qui vivent dans ce milieu rural depuis toujours et qui l'ont jamais quitté. Et je pense que notamment, sans doute, sous le feu des gilets jaunes. Haute-Garonne, on a une actualité qui nous a rappelé ces territoires, et que ces territoires sont pas seulement des territoires, j'allais dire, abandonnés, c'est des territoires qui sont aujourd'hui d'extraordinaires territoires d'innovation sociale, d'innovation démocratique, d'innovation en matière d'entreprise. Et donc le prix Innover à la campagne, il a pour objectif d'éclairer l'ensemble de ces innovations.
Innovation sociale avec les tiers-lieux. Alors, ça peut être une innovation économique, il y en a de plus en plus, ouais. Et cette année, il y aura un prix dédié aux tiers-lieux.
Tout à fait. La Fondation Terre et Fils, qu'a créé Jean-Sébastien Decaux, a pour objectif de mettre en avant donc le projet le plus important, le plus intéressant en matière de tiers-lieux. Ces tiers-lieux qui sont indispensables au lien social, hein. On a vu aussi des gros programmes récents en faveur de la réouverture des cafés. Et donc, du coup, c'est cette idée, à un moment, qui a besoin de lieux qui soient des lieux interface, des lieux où les gens se rencontrent. Et ces tiers-lieux, parfois, ils viennent d'un projet lié à une entreprise, ils viennent d'un projet désaffecté, d'un café qui n'existait plus depuis des années et qui sont rouverts. Et on va essayer, avec le prix Innover à la campagne, de les mettre en valeur.
Il y aura trois prix, hein, le grand prix du jury, j'entreprends là où j'ai envie de vivre, le prix tiers-lieu à la campagne, donc avec la Fondation Terre et Fils, comme vous le disiez, et le prix Initiative France dédié au secteur agricole, là, ce que l'on gagne. Alors, mis à part un petit apport financier pour le tiers-lieu, c'est d'abord la médiatisation, et puis le suivi d'un... on va dire un tuteur de grande entreprise.
Oui, oui, oui. Il y a les membres du jury sont des patrons de grandes entreprises. On a François Lemarchand qui a créé la Fondation Nature et Découverte et l'entreprise Nature et Découverte, Louis Schweitzer qui aujourd'hui préside France Initiative, le Bernard Chevillat qui a créé l'entreprise Melvita en Ardèche, Serge Papin qui a été le grand président de Système U, donc l'ensemble des des grands magasins. Donc du coup ces différentes personnalités font partie du jury, et on a en plus un prix spécial qui est lié aux parcs naturels régionaux, puisque les parcs naturels régionaux sont nos partenaires depuis la première édition, que l'an dernier il y a eu 33 projets émanant des parcs naturels régionaux, et on va les retrouver cette année à nos côtés, parce que c'est un véritable lieu qui réinvente une autre façon d'habiter autrement notre territoire.
Et puis pour aller plus loin, au-delà de ce prix, je vous ai suivi à l'occasion de différents rendez-vous, vous aviez en perspective la création d'un label ou d'une marque, campagne d'entrepreneurs, où en êtes-vous ?
Aujourd'hui, on a des échanges avec notamment la région Occitanie, et notre volonté, c'est de passer à cette seconde étape, c'est-à-dire de fédérer sous le label campagne d'entrepreneurs des territoires qui ont une démarche spécifique pour accueillir des entrepreneurs. C'est-à-dire des territoires qui, à la fois, c'est pas seulement une histoire de facilitation fiscale, mais c'est aussi des lieux qui sont capables d'accompagner l'entrepreneur qui arrive avec une famille, qui arrive avec des besoins d'installation, qui arrive aussi avec des besoins en termes d'entreprise, de locaux, etc. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'en milieu rural, il y a des territoires qui créent ces structures interfaces pour accueillir les entrepreneurs. Donc on va essayer de créer ce label dans la foulée.
Tant mieux. Innover à la campagne.fr pour le site date limite du dépôt des candidatures, 28 novembre. Merci Eric.
Merci beaucoup.
Comme nous serons la semaine prochaine dans le département du Bas-Rhin et comme nous sommes le 1er novembre qui signe le début du mois de l'économie sociale et solidaire, je vous invite à la soirée qu'organise la Fédération des Cigales du Grand Est et le Club Cigale de Strasbourg, mardi prochain, le 5 novembre, à 18h30 à la Maison Citoyenne de Strasbourg. Les Clubs des Cigales regroupent des particuliers qui ont choisi de créer une épargne au profit de création d'entreprises solidaires de proximité. Or, le seul regret est que le Club Strasbourgeois est pour l'instant le seul de ce type dans le département du Bas-Rhin. C'est d'ailleurs pour développer le mouvement que ce genre de réunion est créé. Il permet aussi aux porteurs de projets, comme on les appelle, en quête de soutien financier, de se faire connaître auprès des futurs investisseurs. La semaine prochaine, donc, nous serons dans le Bas-Rhin, puis dans la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, et notez d'ores et déjà la Sarthe et le Val-de-Marne. Merci à Frédéric Milano qui réalisait les carnets cette semaine. Merci à Joël Levert qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur apportaient aussi du volume, comme aujourd'hui Elise Christophe. Nicolas Stouff l'assisté de Yann Payrel, le jeu des 1000 euros, c'est la dernière, à Pontoise.